Physiologie du goût, variété 3. Victoire nationale. Pendant mon séjour à New York, j'allais quelquefois passer la soirée dans une espèce de café-taverne tenue par un sieur Little, chez qui on trouvait le matin de la soupe à la tortue et le soir tous les rafraîchissements d'usage aux États-Unis. J'y conduisais le plus souvent le vicomte de la Massue et Jean-Rodolphe Fer, ancien courtier de commerce à Marseille, l'un et l'autre émigrés comme moi. Je les régalais d'un Welsh Rabbit que nous arrosions d'ale ou de cidre. Les Anglais appellent épigrammatiquement Welsh Rabbit, lapin gallois, un morceau de fromage grillé sur une tranche de pain. Certes, cette préparation n'est pas si substantielle qu'un lapin, mais elle invite à boire, fait trouver le vin bon et tient fort bien sa place au dessert en petit comité. Et la soirée se passait tout doucement à parler de nos malheurs, de nos plaisirs et de nos espérances. Là, je fis connaissance avec M. Wilkinson, planteur à la Jamaïque, et avec un homme qui était sans doute un de ses amis, car il ne le quittait jamais. Ce dernier, dont je n'ai jamais su le nom, était un des hommes les plus extraordinaires que j'ai rencontrés. Il avait le visage carré, les yeux vifs, et paraissait tout examiner avec attention. Mais il ne parlait jamais, et ses traits étaient immobiles comme ceux d'un aveugle. Seulement, quand il entendait une saillie ou un trait comique, son visage s'épanouissait, ses yeux se fermaient, et, ouvrant une bouche aussi large avec le pavillon d'un corps, il en faisait sortir un son prolongé qui tenait à la fois du rire et du hennissement appelé en anglais « horse laugh ». Après quoi, tout rentrait dans l'ordre et il retombait dans sa taciturnité habituelle. C'était l'effet de la durée de l'éclair qui déchire la nue. Quant à M. Wilkinson, qui paraissait âgé d'environ 50 ans, il avait les manières et tout l'extérieur d'un homme comme il faut, of a gentleman. Ces deux Anglais paraissaient faire cas de notre société et avaient déjà partagé plusieurs fois, de fort bonne grâce, la collation frugale que j'offrais à mes amis. Lorsqu'un soir, M. Wilkinson me prit à part et me déclara l'intention où il était de nous engager tous trois à dîner. Je remerciai. Et, me croyant suffisamment fondé de pouvoir dans une affaire où j'étais évidemment la partie principale, j'acceptai pour tous, et l'invitation resta fixée au surlendemain à 3 heures. La soirée se passa comme à l'ordinaire. Mais, au moment où je me retirais, le garçon de salle, waiter, me prit à part et m'apprit que les Jamaïcains avaient commandé un bon repas, qu'ils avaient donné des ordres pour que les liquides fussent soignés, parce qu'ils regardaient leur invitation comme un défi à qui boirait le mieux, et que l'homme à la grande bouche avait dit qu'il espérait bien qu'à lui seul, il mettrait les Français sous la table. Cette nouvelle m'aurait fait rejeter le banquet offert si je l'avais pu avec honneur, car j'ai toujours fui de pareilles orgies. Mais la chose était impossible. Les Anglais auraient été criés partout que nous n'avions pas osé nous présenter au combat, que leur présence seule avait suffi pour nous faire reculer. Et, quoique bien instruits du danger, nous suivîmes la maxime du maréchal de Saxe. Le vin était tiré, nous nous préparâmes à le boire. Je n'étais pas sans quelques soucis, mais en vérité, ces soucis ne m'avaient pas pour objet. Je regardais, comme certains, qu'étant à la fois plus jeune, plus grand et plus vigoureux que nos amphitryons, ma constitution, vierge d'excès bachiques, triompherait facilement des deux Anglais, probablement usé par l'excès des liqueurs spiritueuses. Sans doute, restait seul au milieu des quatre autres réservés, on m'aurait bien proclamé vainqueur. Mais cette victoire, qui m'aurait été personnelle, aurait été singulièrement affaiblie par la chute de mes deux compatriotes, qu'on aurait emportés avec les vaincus, dans l'état hideux qui suit une pareille défaite. Je désirais leur épargner cet affront. En un mot, je voulais le triomphe de la nation et non celui de l'individu. En conséquence, je rassemblai chez moi Fer et la massue et leur fis une allocution sévère et formelle pour leur annoncer mes craintes. Je leur recommandai de boire à petits coups autant que possible, d'en esquiver quelques-uns pendant que j'attirerai l'attention de mes antagonistes, et surtout de manger doucement et de conserver un peu d'appétit pendant toute la séance, parce que les aliments mêlés aux boissons en tempèrent l'ardeur et les empêchent de se porter au cerveau avec tant de violence. Enfin, nous partageâmes une assiette d'amandes amères, dont j'avais entendu vanter la propriété pour modérer les fumées du vin. Ainsi armés au physique et au moral, nous nous rendîmes chez Little, où nous trouvâmes les Jamaïcains. Et bientôt après, le dîner fut servi. Il consistait en une énorme pièce de roast beef, un dindon cuit dans son jus, des racines bouillies, une salade de choux cru et une tarte aux confitures. On but à la française, c'est-à-dire que le vin fut servi dès le commencement. C'était du fort bon clairé, qui était alors bien meilleur marché qu'en France, parce qu'il en était arrivé successivement plusieurs cargaisons, dont les dernières s'étaient très mal vendues. Monsieur Wilkinson faisait ses honneurs à merveille, nous invitant à manger et nous donnant l'exemple. Son ami paraissait abîmé dans son assiette, ne disait mot, regardait de côté et riait du coin des lèvres. Pour moi, j'étais charmé de mes deux acolytes. La massue, quoique douée d'un assez vaste appétit, ménageait ses morceaux comme une petite maîtresse. Et Fer escamotait de temps en temps quelques verres de vin qu'il faisait passer avec adresse dans un pot à bière qui était au bout de la table. De mon côté, je tenais rondement tête aux deux Anglais. Et plus le repas avançait, plus je me sentais plein de confiance. Après le clairé, vint le porto. Après le porto, le madère, auquel nous nous tîmes longtemps. Le dessert était arrivé, composé de beurre, de fromage, de noix de coco et d'icorie. Ce fut alors le moment des toasts, et nous bûmes amplement au pouvoir des rois, à la liberté des peuples et à la beauté des dames. Nous portâmes, avec M. Wilkinson, la santé de sa fille Maria, qu'il nous assura être la plus belle personne de toute l'île de la Jamaïque. Après le vin, arrivèrent les spirits, c'est-à-dire le rhum et les eaux-de-vie de vin, de grains et de framboises. Avec les spirits, les chansons, et je vis qu'il allait faire chaud. Je craignais les spirits, je les éludais en demandant du punch. Et Little lui-même nous en apporta un bol, sans doute préparé d'avance, qui aurait suffi pour 40 personnes. Nous n'avons point en France de vase de cette dimension. Cette vue me rendit le courage. Je mangeai 5 à 6 rôtis d'un beurre extrêmement frais, et je sentis renaître mes forces. Alors je jetai un coup d'œil scrutateur sur tout ce qui m'environnait, car je commençais à être inquiet sur la manière dont tout cela finirait. Mes deux amis me parurent assez frais. Ils buvaient en épluchant des noix d'icorie. M. Wilkinson avait la face rouge cramoisie. Ses yeux étaient troubles. Il paraissait affaissé. Son ami gardait le silence, mais sa tête fumait comme une chaudière bouillante, et sa bouche immense s'était formé en cul de poule. Je vis bien que la catastrophe approchait. Effectivement, M. Wilkinson, s'étant réveillé comme en sursaut, se leva et entonna d'une voix assez forte l'air national « Rule Britannia ». Mais il ne put jamais aller plus loin. Ses forces le trahirent. Il se laissa retomber sur sa chaise et de là coula sous la table. Son ami, le voyant en cet état, laissa échapper un de ses plus bruyants ricanements et s'étant baissé pour l'aider, tomba à côté de lui. Il est impossible d'exprimer la satisfaction que me causa ce brusque dénouement et le poids dont il me débarrassa. Je me hâtai de sonner. Little monta et, après lui avoir adressé la phrase officielle, « Voyez à ce que ces gentlemen soient convenablement soignés. » Nous bûmes avec lui un dernier verre de punch à leur santé. Bientôt, le waiter arriva, aidé de ses sous-ordres, et ils s'emparèrent des vaincus qu'ils transportèrent chez eux, les pieds les premiers, suivant la règle « the feet foremost ». On se sert en anglais de cette expression pour désigner ceux qu'on emporte morts ou ivres. L'ami gardant une immobilité absolue et M. Wilkinson essayant toujours de chanter l'air « Rule Britannia ». Le lendemain, les journaux de New York, qui furent ensuite successivement copiés par tous ceux de l'Union, racontèrent avec assez d'exactitude ce qui s'était passé. Et, ayant ajouté que les deux Anglais avaient été malades des suites de cette aventure, j'allais les voir. Je trouvai l'ami tout stupéfié par les suites d'une forte indigestion, et M. Wilkinson, retenu sur sa chaise par un accès de goutte que notre lutte bachique avait probablement réveillé. Il parut sensible à cette attention et me dit, entre autres choses, « Oh, dear sir, you are very good company indeed, but too hard a drinker for us. » Mon cher monsieur, vous êtes en vérité de très bonne compagnie, mais vous êtes trop fort buveur pour nous. »